Vous savez que nous apprenons à tous les jours de la transmission du coronavirus lui-même. Il n'y a toujours pas de vaccin, pas de médication, je dirais, appropriée à la COVID-19. Mais les spécialistes en tout domaine en apprennent tous les jours. Et d'ailleurs, vous avez vu ce mouvement, un pas en avant, un pas en arrière, de l'OMS cette semaine, notamment sur les cas asymptomatiques. On n'a pas encore de conclusion sur la façon dont se transmet ce coronavirus. Cependant, hier, j'écoutais ma camarade Isabelle Maréchal, que je salue, et j'ai entendu l'intervention du docteur Gilles Goulet, cardiologue. Je trouvais extrêmement intéressant sa réflexion de ce que nous connaissons en ce moment et des théories qu'on peut émettre. Quelle est la façon la plus appropriée de ce qu'on connaît pour non seulement se protéger, mais empêcher une augmentation de transmission, peut-être une seconde vague, avec toutes ces questions de masques, de distanciation. Le docteur Gilles Goulet, cardiologue, a accepté notre invitation ce matin. Docteur Goulet, bonjour.
Bon matin, Monsieur Hood.
J'ai bien écouté votre intervention hier et vous sembliez insister sur un des aspects les plus importants qui peut nous aider à freiner la transmission, c'est le contact au toucher, donc l'importance de se laver les mains.
Exactement. En fait, faut d'abord me situer là. Je veux rien enlever à mes collègues, surtout docteur Quash, docteur Wesh, qui ont fait beaucoup de travail là, de communication. Ce que j'apporte ici, c'est une réflexion, une observation, parce que je suis un médecin, donc mon devoir, d'abord et avant tout, c'est d'observer. Quand je vous vois vous lever de la salle d'attente, la consultation commence à ce moment-là, je vous observe. Alors, ce que je regarde, il faut regarder ça d'une façon lucide, n'est-ce pas? Le lavage des mains, c'est la première chose qu'on nous a enseigné avec l'hygiène respiratoire. On nous a montré comment se laver les mains à l'eau tiède, 20 minutes, 20 secondes, on chante une petite chanson, on va dans tous les raccoins de la main. C'est l'essentiel. En fait, je vais ajouter tout de suite, tout va bien si vous vous lavez les mains, si vous vous tenez loin des autres et si vous faites une hygiène respiratoire.
Bien sûr. Attends, l'hygiène respiratoire, qu'est-ce que ça veut dire exactement, concrètement?
Tousser dans son coude, n'est-ce pas? Et puis si on a un écoulement de nez, si on se tient loin de tout le monde, on va se faire tester, on attend le résultat et puis on sortira après si le résultat est négatif.
La distanciation. Il y a beaucoup de gens, Dr Goulet, qui disent « c'est une question uniquement, on a lancé ça de façon aléatoire ». Exemple, l'OMS recommande 1 mètre. Ici, il y a des gens qui disent « mais pourquoi 2 mètres ?» Comme si c'était absolument rigoureux que 2 mètres sont nécessaires, puis 1 mètre selon l'OMS. Il y a beaucoup de gens qui remettent en question donc l'efficacité et l'importance de la distanciation si on n'arrive pas à une mesure commune.
Alors, c'est pour ça que je vous ai mentionné se tenir loin des autres. Loin de moi l'idée de vous dire 2 mètres ou 1 mètre, qu'est-ce qui est la norme. On apprend quotidiennement d'un virus qui est en cours dans le continent asiatique depuis le mois de décembre. Et les informations, on a appris en vol ici beaucoup de détails qu'on ne savait pas, comme par exemple les patients asymptomatiques dont vous venez tout juste de discuter. Alors, 1 mètre, 2 mètres, moi, ce que je recommande aux gens, c'est de se tenir le plus loin possible. Et si on a à sortir et qu'on a à se rapprocher, évidemment, quand on revient à la maison, on se relave les mains. Le problème, c'est les mains. Vous portez vos mains à votre visage de façon inconsciente plusieurs fois par jour. Plusieurs fois. Et avoir un masque au visage va vous augmenter cette fréquence de toucher votre visage parce que le masque dérange. Habituellement, on n'a pas de masque. Et je vais pousser la réflexion un peu plus loin, si vous voulez bien, Monsieur Hood.
Oui.
Vous êtes conscient que 20% des infections COVID viennent des travailleurs de la santé.
Exact.
D'accord?
Oui.
Alors, souvenez-vous, là, les travailleurs de la santé, nous, là, on travaille avec masque, visière, jaquette et gants. Comment fait-on pour l'attraper? N'est-ce pas?
Oui.
Alors, moi, c'est ma théorie d'observation, c'est qu'on a tous un point central où on va prendre les dossiers, écrire dans les dossiers, les ordinateurs et tout. Et à ce moment-là, on enlève nos gants, on enlève parfois la jaquette, parfois on la garde. On contamine autour par nos mains.
Mais en même temps, c'est troublant parce que vous devez être très protégé en tant que travailleur de première ligne, mais que dès que vous retirez vos pièces de protection, vous êtes quand même à risque.
Alors, c'est là, encore une fois, tout le lavage de mains. On va faire beaucoup d'enquêtes. On va tirer des conclusions de comment ça n'a pas bien été. OK? CHSLD, les CHSLD, les travailleurs de la santé à l'intérieur sont sortis dans la communauté. En fait, vous aimez beaucoup, vous, les comparaisons de... Je vais vous en sortir une bonne ici, là. Nous avons eu affaire à une guerre dont l'ennemi était microscopique et invisible. Si vous savez bien, à la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands n'attendaient pas les Français sur les plages de la Normandie. Nous n'attendions pas le virus par les CHSLD. Nous l'attendions par une infection communautaire à partir des gens qui venaient de l'extérieur.
Mais ce qui a été le cas aussi, là, il faut bien
minime,
se dire.
Oui, mais minime par rapport à l'hécatombe que nous avons eue dans les CHSLD.
C'est vrai.
Et la contamination des gens qui y travaillaient entre eux et dans la communauté. Alors, le virus n'est pas rentré par les voyageurs nécessairement qui ont infecté leurs semblables, mais beaucoup plus par le feu qui a pris à l'intérieur des CHSLD pour les problèmes que vous connaissez et que nous, on les connaît depuis longtemps, mais on avait toujours la tête dans le sable. Alors, voilà le comment l'infection est sortie de là. Si vous regardez le commun des mortels dans la population générale, surtout à l'extérieur de Montréal, ça a très bien été. Les gens se sont lavés les mains, se sont gardés loin les uns des autres.
Le bilan est exceptionnel. Si vous enlevez le point chaud, la fameuse zone chaude de Montréal, compte tenu des statistiques mondiales, le reste du Québec, c'est un bilan exceptionnel.
Et il est comparable à celui de la Colombie-Britannique?
Alors, on a cité un exemple, la Colombie-Britannique, qui était bien mal partie. Rappelez-vous, Dr Goulet, au départ, la première province qui a été durement touchée, là, en fait touchée rapidement par la pandémie, c'était la Colombie-Britannique. Et on a fait une transformation rapide, on a fait l'évaluation de la situation. Et regardez le bilan, c'est formidable.
Il est formidable. Mais nous, ici, on avait un point de différence, les centres de soins prolongés.
Oui, évidemment. Ça aussi, vous l'avez dit, il va falloir que ça fasse l'objet non seulement d'une profonde réflexion, mais en tout cas de transformation importante. Avant que je l'oublie, docteur Goulet, je vais vous amener sur un point important. On parle beaucoup de gens qui portent le masque, ceux qui ne le portent pas. Ce que ça a créé, il arrive des moments où on doit aller dans une épicerie, tout ça, les gens se regardent. Comme si les bons portaient des masques, les méchants ne portaient pas de masques. Il y a une chose qui est mesurable là-dedans, c'est que on pourrait se servir de ça également, pas seulement pour le coronavirus, mais imaginez-vous lors de la pointe de grippe en janvier, ça ferait du sens de garder ses distances, ça ferait du sens de porter un masque, vous trouvez pas?
Et là, c'est là que je mets le bémol, moi. Si on regarde le docteur Arruda, par exemple, a toujours gardé un peu la même ligne, bien qu'on l'accuse de tous les maux parfois, là. Il a gardé la ligne sur le masque. Il n'a jamais fait l'objet du masque de façon obligatoire. Et je crois que le gouvernement, bien qu'il l'encourage, parce que c'est quand même une barrière physique pour protéger les autres, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose pour se protéger soi-même. Allons-y avec, encore une fois, une réflexion lucide. On met le masque pour se protéger des gouttelettes des autres, n'est-ce pas? Si on met le masque pour se protéger des gouttelettes des autres, et si on veut être conséquent envers nous-mêmes, on doit considérer le masque comme étant un objet infecté par les fameuses gouttelettes. Alors, si vous regardez autour de vous, là, vous allez voir des gens qui, ceux qui portent le masque, vont le porter sous le nez, ou encore, ils vont le porter correctement, mais le téléphone cellulaire va sonner et ils vont prendre leur masque comme on prend une pomme, vont la glisser sous le menton et ils vont répondre au téléphone et vont reprendre leur masque comme la pomme et ils vont le remettre. Donc, leur main est infectée et le masque devrait être changé.
Vous avez tout à fait raison.
Alors, c'est beaucoup d'ouvrages pour mettre quelque chose obligatoire, comprenez-vous?
Je comprends. Mais bien des endroits, en tout cas, ont rendu le masque obligatoire. Est-ce que, Dr Goulet, on n'en sait pas assez pour savoir s'il y aura une deuxième vague? Déjà, le Dr Arruda a pris les devants en disant que s'il y avait une seconde vague qui se manifestait dans les prochains mois, on ne confinerait pas obligatoirement. Donnez-moi votre impression sur le confinement général.
Moi, je crois qu'on a appris de la première vague. Peu importe s'il y aura deuxième ou pas, on a appris de la première vague. On a fait tantôt la description de comment ça s'était bien passé au Québec. Oui, c'est sûr, les gens étaient tous confinés, mais on a appris beaucoup de choses sur les gens asymptomatiques, chez les jeunes, chez les gens potentiellement à risque. On sait, on va mieux cibler qui est-ce qui devrait être protégé. Et en tant que citoyens d'une collectivité, nous avons tous un devoir de protéger l'autre. La liberté de un se termine à la liberté de l'autre. On a comme collectivité le devoir de protéger ceux qui sont à risque. Personnes âgées, par exemple, personnes immunocompromises, personnes avec une néoplasie, personnes avec de graves problèmes cardiovasculaires. Alors, s'il y avait deuxième vague, évidemment, on revient au même principe de base que je vous ai dit. On se tient loin des gens. On protège les autres en n'allant pas à la maison là-bas. On se lave les mains régulièrement. Et l'hygiène respiratoire qu'on a discuté. Les trois principes qui sont là, de base, là, n'oublions pas qu'on fait affaire avec une infection des voies aériennes, le nez, la bouche et les poumons. OK? Alors, il ne faut pas mettre les contaminants dans le nez, la bouche. La main. C'est la main. On doit toujours penser à la main.
Mais ce sont des rappels qui vont rester. Autrement dit, s'il y en avait une seconde vague qui s'amène. N'oublions pas que l'influenza va revenir aussi.
Effectivement.
Par-dessus tout ça, nos règles de base, là, on les connaît.
On les connaît, mais est-ce qu'on les applique de façon correctement?
Ben, c'est pas tout le monde qui les applique de la même
voilà.
façon.
Regardez toujours autour de vous. Regardez comment les gens vont se laver les mains.
Oui.
On se frotte les mains sous l'eau. C'est pas suffisant.
Vous avez tout à fait raison, mais on n'a pas toujours accès à se laver les mains rapidement, même si on en ressent le besoin. Donc,
c'est un jour viendra où ce que on aura plus de facilité d'acheter comme le Purel ou l'équivalent. On aura une bouteille à la poche, comme mes patients ont une bouteille de nitroglycérine
bien
dans leur poche.
Bien sûr, bien sûr.
Ben alors, on pourra l'utiliser n'importe quand.
Vous venez de me donner une idée. Je vais lancer ça. Votre auto-nettoyant à main lorsque vous n'avez pas accès à un robinet. Merci.
Exactement.
Merci beaucoup, Dr Goulet. C'était très intéressant. On aura l'occasion peut-être de se reparler. Merci. Au revoir.
Toujours disponible. Bonjour. Bonne journée.
Il est cardiologue. Dr Gilles Goulet dit « Ça fait du sens et c'est pas compliqué. » C'est pas compliqué. On est obligé d'être caché dans le sous-sol pendant 3 mois. Se laver les mains régulièrement, parce que c'est encore une réalité dans la transmission, pas seulement d'ailleurs du coronavirus, mais de toutes sortes d'autres bactéries ou problèmes.